Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» Et aujourd'hui, on a choisi un sujet autour de la question des femmes en politique, des femmes et la politique. On a dans la première partie de l'émission le plaisir d'accueillir Virginie Martin. Bonjour.
Bonjour Alexis.
Alors je rappelle que vous êtes politiste, professeur et que vous êtes également à la co-direction du Conseil scientifique de la revue Politique et Parlementaire, qui est un de nos partenaires sur cette émission. Et vous avez également sorti récemment un ouvrage, Le charme discret des séries, aux éditions Human Science, dans lequel d'ailleurs il y a une analyse très très fine et subtile de ce phénomène que sont devenues les séries, en particulier à la télévision et sur Internet, mais aussi sur la question du sexisme et du mouvement MeToo. Et donc ça sera ma première question, si je puis dire. Où est-ce qu'on en est de cette question après justement MeToo et après un certain nombre de mobilisations de la société civile autour des violences faites aux femmes et d'une manière générale de leur infériorisation dans les lieux de pouvoir.
Infériorisation, Alexis, mais aussi invisibilisation ici ou là, donc qui est aussi un vrai problème. Eh bien, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est ? Les paroles se sont beaucoup libérées, hein, vous venez de le dire, avec MeToo. On assiste encore récemment, il y a à peu près 48 heures, à un MeToo théâtre sur le harcèlement et les problèmes qu'il peut y avoir dans ces milieux-là. Mais on voit aussi que par une sorte d'effet de balancier, notamment en France, je le précise, les choses sont toujours mal vues de ce côté-là des combats. Le féminisme est toujours un peu, un mot assez péjoratif. On dit que c'est exagéré, on dit que c'est pas normal, etc. C'est très violent quand même, et ça reste encore très violent, alors que c'est comme si le sujet était toujours pas légitime, en fait. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire.
C'est-à-dire que ça reste à l'image d'autres sujets dans la société française, des sujets tabous dont on a du mal à parler et en fait à mettre des mots, les bons mots, sur ces réalités.
C'est peut-être même pire que ça, c'est que beaucoup de sujets ne sont pas frappés d'illégitimité. Ils sont peut-être maltraités, le pouvoir d'achat, l'égalité entre citoyens, etc. Très bien. Peut-être maltraité, la démocratie peut-être malmenée, mais le sujet est quand même traité et il est considéré comme légitime. La question des femmes, du patriarcat, de leur traitement dans les médias, dans le politique, dans les sphères culturelles, ou même dans les sphères domestiques, il y a toujours quelque chose qui est frappé d'illégitimité, comme si ce sujet, finalement, n'avait pas droit de cité dans notre pays et dans notre démocratie, justement, et que les choses étaient normales. Il y a encore beaucoup de « oh, ça exagère, de quoi parle-t-on, mais en France, c'est quand même pas le pire ». Vous voyez, il y a quelque chose de dénigré, en fait, et de pas pris au sérieux sur ce sujet.
Alors, on recevra tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, Gabriel Siriwari, qui vient de sortir un ouvrage « La République des Hommes ». Elle dit plusieurs choses, elle développe une thèse, elle dit d'abord le féminisme est d'abord un combat social, et puis elle lie finalement la question de la domination masculine au capitalisme, au patriarcat, et au fait que finalement un des moteurs du capitalisme, ça serait la manière dont finalement on utilise le corps des femmes dans tout un tas de pans de l'économie, de la société, le merchandising. Elle dit finalement, c'est parce que ce sont des femmes qu'on se permet de faire des choses qui sinon n'auraient pas lieu d'être.
Oui, bien sûr, ce sont des thèses très très connues, hein. Et puis on a vu la démonstration politique avec Sandrine Rousseau, justement, qui parle bien d'écoféminisme et qui lie bien la question d'écologie avec celle de la lutte des classes et celle, effectivement, de l'exploitation du féminin à des fins capitalistiques. C'est vraiment un triptyque relativement connu. et qui est important. Mais ce qui est étrange aussi, c'est qu'on voit par exemple aux États-Unis, et je le montre aussi dans mon livre sur les séries dont vous venez de parler, on voit aussi qu'il y a un grand empowerment au féminin. Non, l'exploitation des femmes, là, j'allais dire, n'est plus tellement possible, n'est plus tellement autorisée, n'est plus autorisable, si je puis dire. Et donc, il y a un vrai problème. Et le nombre de séries par dizaines et dizaines qui sont extrêmement féministes, extrêmement engagées sur ces questions-là, que ce soit The Good Wife, The Good Fight, que ce soit d'autres séries ici ou là, The Bold Type et beaucoup, beaucoup, La Servante Écarlate, évidemment, on pourrait par dizaines raconter cela. Mais on voit que ces séries sont souvent finalement liées à une Amérique qui veut travailler sur les questions de race, les questions de genre et les questions de classe sociale aussi, malgré évidemment le contexte très capitalistique de ce pays. S'il en est un, c'est celui-ci, évidemment. Donc finalement, la France résiste sur ces questions. On appelle ça la woke culture en la moquant, en la dénigrant, en disant que c'est vraiment voilà une américanisation de la société. Mais parfois, on peut prendre le bon de l'Amérique. On peut prendre le bon, et tant mieux si les personnes justement racisées ou les questions de genre sont vraiment portées à l'honneur grâce à une forme, si je puis dire, d'américanisation. Une forme, hein.
Oui, alors c'est vrai que vous avez évoqué la campagne de Sandrine Rousseau dans la primaire des écologistes, en soulevant un certain nombre de thèmes, bon, parfois des thèmes, c'est vrai, qui provoquent un peu du dissensus, qui clivent, mais c'est vrai qu'elle a aussi été vigoureusement attaquée parce que elle abordait un certain nombre des sujets de la woke culture. Et est-ce que finalement cette résistance, c'est pas aussi une preuve que la France a du mal à accepter de faire évoluer ses cadres de pensée et que l'universalisme, qui est un volet important de l'identité de notre pays, est souvent utilisé pour mettre, si je puis dire, la cloche ou le couvercle sur la marmite.
C'est exactement ce que je disais. Je crois que c'était cette semaine dans l'Obs où j'ai été longuement interviewée, et je revenais justement sur cette question d'universalisme qui est un universalisme qui invisibilise. C'est cette République une et indivisible qui voudrait dire que finalement, vous et moi, ben, nous sommes pareils, un et indivisible. Ben non, vous avez votre histoire, j'ai la mienne. C'est compliqué de dire il n'y a rien à voir, circuler, tous les êtres et tous les citoyens se valent et la République vous invisibilise complètement. Ça, c'est plus possible puisque ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Donc moi, j'avais porté aussi le concept, dont je reparle d'ailleurs dans le livre sur les séries, d'universalisme de différence, qui était à la fois, et voilà, une entité reste une entité, un individu a son trajet, son expérience, son empowerment, ses obstacles dans la vie, un autre en a d'autres, et du coup on n'est pas exactement les mêmes à la fin. Ça ne veut pas dire que la République doit nous traiter ici ou là différemment, mais si elle doit parfois en revanche corriger, elle doit corriger. Mais pour corriger, il faut aussi qu'elle voie, qu'elle puisse quantifier ces différences et ces problèmes, notamment ces discriminations. C'est les quotas, par exemple, qu'on a pu mettre en place en politique pour les femmes, ou aujourd'hui, moi qui ai beaucoup travaillé sur les discriminations ethniques, eh bien les statistiques ethniques sont encore interdites en France et elles empêchent de quantifier les phénomènes. Donc, elles les rendent invisibles.
Mais vous savez très bien que dans ces cas-là, le premier réflexe, c'est souvent d'assommer un petit peu le débat en utilisant, vous l'avez dit vous-même, il y a un terme qu'on ne connaissait pas encore il y a quelques mois, mais qui aujourd'hui monopolise les discussions, il est présent dans toutes les discussions, c'est la woke culture, et donc où les gens disent non mais ça on peut pas en débattre, et en tout cas pas en ces termes-là, parce que c'est importé des États-Unis, parce que c'est ça tourne le dos à l'universalisme républicain. Finalement, c'est un dialogue de sourds. Comment on fait pour surmonter ce déni ou cette stigmatisation à travers des mots qu'on lance pour finalement faire cesser un débat?
Et vous savez, pour nous, universitaires, cette histoire, elle est très bizarre. Parce que vous dites tout ça existe dans les médias depuis 6 mois. Mais par exemple, moi j'ai monté en 2010 un groupe de réflexion qui s'appelait Think Tank Différent. Donc c'était un groupe de réflexion qui s'appelait Différent, d'une certaine manière, et qui prenait justement la question des racisés, la question des orientations sexuelles, la question des égalités ou inégalités entre les hommes et les femmes, etc. Et évidemment qui ne négligeait pas la classe sociale. Mais pour nous, universitaires, c'est un débat qui est profond. J'ai monté, moi, il y a 10 ou 15 ans, une chaire sur le genre. On travaille sur des questions intersectionnelles qui sont aujourd'hui à la télé tous les matins, mais depuis des années et des années. Quand la chercheuse Crenshaw aux États-Unis en 1984, me semble-t-il, raconte et théorise les théories de l'intersectionnalité, imaginez pour nous à quel point c'est, je ne veux pas dire banal, mais à quel point c'est connu. Et puis tout d'un coup, les médias, la sphère médiatico-politique, ont fait un sujet polémique. Alors que nous, nous avions, en tant que chercheurs, l'habitude de travailler sur ces questions.
C'est des sujets d'études.
Mais c'est ça, tranquillement et dans notre coin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, allez regarder si on met des quotas féminins sur les grandes entreprises, qu'est-ce que ça donne dans les conseils d'administration, allez regarder justement les discriminations liées aux origines, allez regarder tout ce genre de choses. Pour nous, c'était très banal et tout d'un coup, ça se politise, ça se médiatise et ça clive. Et là, je trouve que vous avez employé un bon mot, on assomme le débat, on assomme le débat. Quand on entend Éric Zemmour employer le mot d'intersectionnalité alors qu'il n'y comprend strictement rien, alors que nous, ça fait 10, 20 ans qu'on travaille sur ces sujets, vous voyez à quel point on est dépossédé aussi, à la fois de nos travaux, de nos savoirs, de nos connaissances et de ce que nous pourrions apporter à la communauté. On nous en prive et on en prive la communauté.
Alors, on a vu effectivement que sur ces sujets-là, le débat était toujours compliqué. Et finalement, on a des adversaires du féminisme, mais qui aujourd'hui n'affrontent plus le féminisme, si c'était peut-être encore aujourd'hui Éric Zemmour qui continue à parler des féministes comme certains en parlaient il y a 20 ou 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, sous un angle moins assumé. C'est-à-dire que c'est effectivement la woke culture. C'est aussi plutôt mettre en avant les sujets d'intersectionnalité, de genre. Et c'est souvent, en fait, le nouvel anathème, quand on veut pas débattre de ces sujets-là, c'est de dire qu'effectivement, on veut, transformer la société d'hommes et de femmes en une société d'individus sans sexe, quoi.
Oui, mais ce débat, on voit bien à quel point ça glisse de folie en folie. Que dire là-dessus? Enfin, c'est tellement... ça finit par être une telle caricature, un tel procès d'intention, quelque chose de tellement basique dont il faudrait discuter longuement. Qu'est-ce que le rapport au genre? Qu'est-ce que le rapport au sexe? Qu'est-ce que le contexte patriarcal dans lequel le monde entier vit, et la France en particulier? Vous voyez, c'est à la fois complexe et on nous demande d'apporter des solutions simples. La dernière fois, je vous raconte une anecdote si on en a le temps. J'étais avec mes étudiants et mes étudiantes en cours. Et ils me disent, le féminisme, c'est compliqué, etc. Enfin, un peu ce qu'on est en train de dire. Ils disent, oui, et puis on exagère le patriarcat en France, par exemple. Je leur dis, donnez-moi des exemples de patriarcat. Pour voir si ça n'existe plus dans notre pays, en effet. Et là, ils me disent, l'inégalité de salaire, les féminicides, le fait qu'il n'y ait pas de ministre sur des postes extrêmement importants ou autour de l'Élysée, autour de Macron, le fait qu'il y ait beaucoup de sexualisation liée aux femmes, liée aux...
Dans la publicité, par exemple, dans les médias.
La publicité, les médias, le cinéma, j'en passe, etc. Le fait que parfois on dit encore de père en fils sur une entreprise qui peut être donnée, les business family se transmettent encore un peu difficilement aux filles, etc. Et là, ils me disent, ah oui, en fait, le patriarcat est partout. je les ai laissés conclure en définitive. Vous voyez ? Parce que c'est toujours bien sympathique de dire nous on a un pays parfait, oulala, heureusement qu'on n'est pas en Arabie Saoudite ou en Afghanistan ou au fin fond de je ne sais quel pays. D'accord ? Mais c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que nous sommes parfaits. Et les voies de progrès, les voies de progrès qui sont portées aujourd'hui par des féministes qui s'expriment largement, et tant mieux, eh bien, elles sont énormément contrées, moquées, vraiment dénigrées, comme on le disait tout à l'heure. Et il y a une volonté, effectivement, de taire ce débat. J'ai évidemment pas parlé du jeunisme, agisme vis-à-vis aussi des femmes, quand on a dit à propos de Sandrine Rousseau, une vieille ménopausée à la Greta Thunberg.
Oui, puis avant ça, il faut aussi rappeler que Brigitte Macron avait aussi subi des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux. C'était assez violent.
Délirant. Alors que Xavier Bertrand, qui est avec une fille qui a 30 ans quand lui en a 57, ça ne choque personne. Voilà. Sur en plus un mariage récent, si on va par là et qu'on fait de la morale à 2 euros. Mais Brigitte Macron, elle, en revanche, évidemment, a subi des foudres absolument inquiétantes et très violentes. C'est pareil, si je peux témoigner, et votre autre invité témoignera aussi, moi en tant que politologue, combien de fois on regarde mon brushing, mes fringues, mes cheveux, mon t-shirt, ma bague, mes talons, pas mes talons, au lieu de savoir pourquoi j'ai fait 15 ans d'études et pourquoi je suis en train de raconter des choses à la télévision. Vous voyez ? Donc on a toujours ce renvoi au physique, ce renvoi à l'esthétisation, ce renvoi à « elle a fait de la chirurgie, elle n'a pas fait, elle est grosse, elle est maigre, elle est grande, elle est petite, elle est vieille, elle est jeune ». Il y a toujours aussi cela. Ça ne veut pas dire que dans les très nouvelles générations, les garçons ne doivent pas répondre à certains critères esthétiques, mais on voit aussi qu'il y a quand même une tolérance. Donc il y a une...
Et puis ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas, dans les nouvelles générations... des changements profonds, parce qu'on faisait une émission il y a quelques semaines sur la jeunesse, et parmi les valeurs fortes portées par la jeunesse d'aujourd'hui, il y avait l'égalité sous toutes ses formes.
Oui, mais on voit quand même, pour l'instant, malheureusement, les études nous prouvent que dans les plus jeunes générations, qui sont quand même déjà en couple, parce qu'on ne peut pas sinon faire d'études là-dessus, donc on va dire des gens à partir de 23, 25 ans, eh bien, on voit très bien, par exemple, que le partage des tâches domestiques reste totalement inégalitaire et les garçons ont pris une demi-heure de plus que leurs vieux aînés sur ces questions de domesticité, mais pas beaucoup plus, en fait. On voit aussi que l'assignation à la sexualisation de la femme et au physique n'a pas beaucoup évolué. Donc, l'égalité, pour l'instant, c'est un peu un vœu qui est appelé de leurs vœux, mais qui n'est pas en fait vraiment incarné. Et pour l'instant, les études quantitatives ne permettent pas tout à fait de voir cela. On voit aussi les féminicides, les viols, les agressions sexuelles, le harcèlement de rue. Tout ça bouge assez peu, en définitive, dans les faits, hein, je dis bien, dans les faits. Donc, en théorie, bon, ben voilà, c'est bien. C'est un peu l'enfer qui est bavé de bonnes intentions. Mais quand est-ce que le paradis sera vraiment là, quoi ?
Bah écoutez, on pourra faire une autre émission hein, pour mesurer les efforts et si les résultats espérés sont au rendez-vous. En tout cas, je vous remercie Virginie Martin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes politiste, que vous êtes également à la co-direction du Conseil scientifique de la revue politique et parlementaire et autrice du Charme discret des séries aux éditions Human Science, dont on aura peut-être l'occasion de reparler dans une autre émission. Mais aujourd'hui, on a parlé de la question du féminisme, des femmes en politique et de la République des hommes. Merci beaucoup Virginie et à très bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Au revoir, merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Une émission aujourd'hui consacrée à la question des femmes et de la politique. Le sexisme dans les sphères du pouvoir, les inégalités économiques, le patriarcat. Dans la première partie de l'émission, nous avions Virginie Martin. Et pour la deuxième partie d'émission, nous avons le plaisir d'accueillir Gabriel Siriwari. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes autrice de La République des Hommes, donc qui vient de sortir aux éditions Bouquin. Vous êtes également élu local à Paris et porte-parole du PS. Mais là, on vous reçoit aujourd'hui comme autrice pour parler avec vous de ce livre, La République des Hommes, dont vous dites, et c'est dès le début de l'ouvrage, que le féminisme est un combat social.
Tout à fait. Effectivement, j'ai voulu écrire ce livre pour plusieurs raisons, mais un des constats que j'avais envie d'évoquer, parce que je trouve qu'on l'entend assez peu en fait dans les médias, alors beaucoup plus de la part de certaines économistes ou sociologues féministes, mais je ne crois pas encore que ce soit une idée qui soit vraiment connue du grand public, c'est la dimension économique et sociale du féminisme, à savoir si aujourd'hui la plupart des professions qui ont été surexposées pendant la crise de la Covid, je pense évidemment aux infirmières, je pense aux travailleurs et travailleuses dans les EHPAD, je pense aux caissières, ces professions qui sont à environ 90% féminines et des professions sous-payées, c'est apparu de manière très évidente pendant la crise, elles sont sous-payées parce que ce sont des professions féminines. Et ça, c'est vraiment un aspect très important à avoir à l'esprit. Et pour moi, en tant que citoyenne engagée, que femme politique de gauche, c'est absolument essentiel de ne pas négliger ce prisme, parce que sinon, on manque toute une partie de la compréhension des inégalités contemporaines, et donc on n'a pas les outils pour lutter contre.
Alors, vous avez effectivement établi un lien, mais c'est pas, vous n'êtes pas la seule, c'est ce que nous disait Virginie Martin. Ça fait longtemps que les féministes ont, je dirais, associé la question des inégalités à celle du fonctionnement du capitalisme, à la domination masculine, et que pour vous comme pour d'autres, il y a aujourd'hui tout ça fait système pour finalement maintenir les femmes dans une forme d'infériorisation ou, nous disait Virginie Martin, d'invisibilisation.
Oui, tout à fait. Alors, ce que j'essaye de faire dans l'ouvrage, c'est un peu d'identifier les différents liens qui peuvent exister aujourd'hui entre capitalisme contemporain et inégalité femmes-hommes. Et donc, il y a plusieurs chapitres et plusieurs thèmes. Je commence par celui de la sexualisation. Donc, en soi, c'est pas un scoop, évidemment, le fait que les industries dites industries scopiques, donc ça veut dire le cinéma, la télévision, les séries, ça va être aussi tout ce qui est clips musicaux, et jusqu'à la pornographie, repose en partie sur, et souvent en grande partie, sur la sexualisation du corps féminin.
Et son exploitation.
Et son exploitation, qui devient un produit, si vous voulez, à part entière, ou qui comment dire. Okay, alors, dans le cinéma, ça va être un produit qui va être intégré dans le produit qu'est le film. Et puis, la pornographie, c'est le corps de la femme est le produit. Et donc, ces industries-là diffusent évidemment des stéréotypes, renforcent des stéréotypes de genre, qui ne permettent pas à la femme, si vous voulez, d'atteindre le même statut moral que celui de l'homme, ça c'est la sociologue Eva Hughes qui en parle très bien, et contribue donc à, c'est une des dimensions aujourd'hui d'infériorisation des femmes, le fait qu'elles soient sexualisées de cette manière-là. Ça c'est un premier aspect. Alors il faut voir aussi que la mondialisation, donc c'est pour ça que je parle du capitalisme contemporain, la mondialisation accroît la diffusion de ces stéréotypes-là. C'est un premier aspect. Le deuxième aspect que j'aborde, c'est celui de la précarisation des femmes dans un système économique néolibéral encouragé par le pouvoir en place, donc celui d'Emmanuel Macron, qui va avoir tendance, avec un certain nombre de réformes, à précariser les femmes. Donc, je peux donner un ou deux exemples. Ça va être la réforme des retraites qui est envisagée, par exemple, et qui viserait, si on passe à un système à points, ça veut dire prendre l'intégralité de la carrière pour calculer le montant de la pension de retraite. Or, les carrières des femmes sont beaucoup plus hachées aujourd'hui, puisque ce sont elles qui ont encore majoritairement la charge des enfants, des tâches familiales, Et donc, le fait de prendre en compte toute la carrière et pas les 25 meilleures années, comme c'est le cas aujourd'hui dans le privé ou les 6 derniers mois dans le public, évidemment, ça pénalise les carrières hachées. C'est une première dimension, mais il y a aussi la dimension de la pénibilité, qui est absolument essentielle quand vous voulez faire travailler les gens plus longtemps. Or, aujourd'hui, la pénibilité de travaux et de métiers féminins est moins reconnue et assez mal reconnue, et l'est encore moins depuis que ce gouvernement est arrivé au pouvoir, puisque une des premières mesures qu'il a prises, c'est de supprimer 4 facteurs de pénibilité du compte pénibilité qui permettait de partir à la retraite plus tôt, dont l'exposition aux produits chimiques, qui est un facteur de pénibilité auquel sont fortement exposées les femmes qui travaillent dans le nettoyage, par exemple. Donc il y a cette dimension, ensuite, précarisation, et puis enfin, il y a une dimension invisibilisation dans les grands médias dont on pourra reparler, mais qui a été très très frappante pendant la crise sanitaire. Les femmes sont en général sous-représentées et la représentation des femmes, y compris en tant qu'expert, d'ailleurs en tant qu'invité, s'est complètement écroulée pendant la Covid, et notamment pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, celle du fait que les charges familiales reposent encore majoritairement sur elles. Donc en fait, on a plusieurs liens qui, à mon avis, sont à relier donc au capitalisme contemporain et qui créent ces dynamiques d'infériorisation des femmes. Voilà. Précarisation, invisibilisation et sexualisation qui contribuent.
Alors il y a ce qui relève effectivement du capitalisme, de ces modes de fonctionnement. On va dire que ça transcende un petit peu les questions de frontières, mais quand même, on en parlait avec Virginie Martin, il y a des spécificités françaises dans ce maintien d'un patriarcat et d'une forme de domination masculine. Elle voit ça notamment dans le fait dans la manière dont sont traitées les féministes en France, souvent de manière péjorative et attaquées de manière aujourd'hui différente, puisque maintenant on attaque plus frontalement les féministes, peut-être à part Éric Zemmour, mais par contre on leur renvoie à la figure qu'elles importent les thèses américaine sur le genre, l'intersectionnalité, la fameuse woke culture qui aujourd'hui fait l'objet de multiples instrumentalisations dans les débats, mais souvent en fait pour ne pas débattre. Voilà, pour ne pas débattre des questions de genre, des questions d'inégalité, des questions entre les sexes. Est-ce que vous sentez quand même cette spécificité française où vous dites non, c'est pareil ailleurs, il n'y a pas qu'en France qu'on voit ça?
Bah, je pense que les deux sont vrais. Je pense qu'il y a une spécificité française qui est en partie liée à notre histoire. Notre système politique est un produit de la Révolution française. Il faut se souvenir qu'au moment de la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est bien de la Déclaration de l'homme et du citoyen. Donc ni les femmes, ni les esclaves d'ailleurs, ne faisaient partie de la communauté politique et communauté nationale qui était reconnue dans cette déclaration. Et puis ça dure très longtemps en fait, puisque donc les femmes ont obtenu le droit de vote en France qu'en 1944, c'est une des dates les plus tardives des grands pays occidentaux. Mais même la devise française, donc qui a été choisie au moment de la Troisième République, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc ça veut dire qu'on reconnaît une solidarité entre frères, même si aujourd'hui le terme de fraternité a un sens plus large. Mais à l'époque, c'est pas un hasard si on parle de fraternité, puisque c'est une solidarité entre frères qui continue d'exclure toute une partie, donc la moitié de la population, de la participation aux politiques. Donc ça, c'est évidemment pas neutre et ça a des conséquences durables. Je pense ensuite que la question à laquelle vous faisiez référence, c'est celle de l'universalisme. C'est vrai qu'on a un modèle particulier qui est celui de l'universalisme, qui n'est pas celui des États-Unis. Alors, pour moi, l'universalisme, c'est quelque chose qui est en fait un concept extrêmement puissant et qui devrait être utilisé pour lutter contre les inégalités. Parce que l'universalisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'universalisme des droits. C'est-à-dire, quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, quel que soit, je sais pas, son orientation sexuelle, bref, quelle que soit ses appartenances individuelles, sa couleur de peau, on a le droit, on a les mêmes droits. Donc ça veut dire que pour défendre ce système universaliste, il faut reconnaître les discriminations là où elles existent, y compris les discriminations femmes-hommes, pour pouvoir lutter contre. Or, aujourd'hui, on assiste dans un certain nombre de médias conservateurs, notamment, mais beaucoup dans les chaînes d'information en continu, beaucoup de la part d'un personnel politique de droite conservateur, mais j'inclus évidemment le gouvernement là-dedans, ils utilisent le concept d'universalisme pour masquer la réalité des inégalités. Comme si il fallait avoir, comme si la République impliquait d'être aveugle aux discriminations. Or, c'est évidemment l'inverse. Donc ça, c'est une utilisation conservatrice pour des questions aussi d'intérêt bien compris qui en échappe, et c'est évidemment pas notre conception de gauche de l'universaliste qui est la conception originelle évidemment.
Oui, mais voilà. Comme vous l'avez dit, dans les médias, dans certains médias et surtout dans beaucoup de discours politiques, aujourd'hui, on essaye d'assommer le débat en assénant des mots, l'universalisme, la République, et utiliser en fait souvent pour taire les différences. Et Virginie Martin, elle opposait à cette conception un peu réactionnaire de la République un universalisme de différence où on regarde en face les inégalités, les discriminations pour mieux les combattre, plutôt que d'afficher un discours universaliste d'apparence, mais qui en fait vise surtout à ne pas parler de ces sujets-là.
Oui, ouais, bien sûr, tout à fait. On peut l'appeler... c'est vrai que maintenant, le terme... Dans la bouche de certains est dévoyé, c'est ça qui est triste. Mais effectivement, l'universalisme, ça doit être un universalisme du concret qui ne ferme pas les yeux sur la réalité des discriminations et qui mobilise les outils juridiques parce que pour lutter contre. Donc aujourd'hui, je prends un exemple, les discriminations salariales sont évidemment interdites, mais elles existent toujours. Donc ça veut dire qu'il nous faut aujourd'hui une femme est payée à poste égal, à travail égal, 10% de moins qu'un homme, et puis si on intègre tout ce qui est temps de travail, structure de l'emploi féminin, c'est 30%. Mais si vous voulez, pour lutter contre ces discriminations, il faut commencer par les reconnaître, donc il faut avoir des outils de mesure aussi de ces discriminations. Donc il ne s'agit pas du tout d'écraser l'analyse par un universalisme abstrait. C'est pas ça déjà notre culture politique, et ça c'est une approche conservatrice qui vise à maintenir des positions de pouvoir bien comprises. Et ça c'est très visible dans les médias, et moi je l'ai constaté à plusieurs reprises, que ce soit à mon égard ou à l'égard...
Vous en parlez dans votre livre.
Oui, tout à fait, j'en parle dans mon livre. On va essayer de coincer... les féminismes systématiquement en déplaçant le débat pour essayer de les discréditer. Alors, moi, je cite l'exemple dans mon livre du moment où il y avait les manifestations féministes pour la démission de Darmanin. Mmh. Le sujet, c'était est-ce qu'il est normal de nommer à un poste aussi important, donc qui a un rôle central dans la lutte contre les violences sexuelles, donc le ministre de l'Intérieur, une personnalité qui est accusée de viol. C'est quelque chose d'ailleurs qui a complètement halluciné les États qui nous entouraient, enfin, et la presse internationale. Et donc c'était ça le sujet. Mais la façon dont c'était traité dans beaucoup de médias, c'était « mais vous avez vu cette petite pancarte dans cette manifestation en province où il y avait 15 personnes, il y avait écrit « Darmanin violeur ». Et le journaliste, donc, de pilonner...
On rappelle quand même que pour l'instant, Gérald Darmanin n'a pas été condamné. Il y avait des procédures en cours quand il a été nommé, mais bon...
Darmanin n'a pas été condamné, effectivement, et il n'y a aucun sujet sur le fait que la présomption d'innocence doit être respectée. Mais là, le sujet, c'était quand même, on a au ministère de l'Intérieur une personne qui est accusée de viol et qui en plus a reconnu avoir eu des relations sexuelles contre un échange de faveurs. Donc c'était... ça, le cœur du débat. Et le débat était déplacé sur le fait de savoir si les féminismes n'étaient pas en train de remettre en cause la présomption d'innocence. Et les images qui étaient données, c'est une petite pancarte dans une manifestation où il y avait 15 personnes sur lesquelles il y avait marqué Darmanin violeur. Et tout le débat tournait autour de ça. Jusqu'à ce que la féministe finisse par dire je condamne cette pancarte, je ne la condamne pas. Bref, elle était coincée parce que le sujet était déplacé sur celui de la présomption d'innocence, alors qu'au fond, il y a un sujet quand même de fond et extrêmement problématique. Donc, il y a un traitement aussi, effectivement, des questions féministes dans les médias qui ne permet pas d'avoir un débat serein et informé. C'est une caricature, permanente. Oui.
Alors, une dernière question, parce que Virginie Martin était un petit peu... modérément optimiste en disant oui aujourd'hui il y a ces combats, ils sont plus visibles, ils doivent être menés, mais on part d'encore assez loin sur les dernières enquêtes en matière de domesticité, de partage des tâches domestiques, même chez les plus jeunes ménages, le nombre de féminicides qui ne diminue pas, vous l'avez dit plusieurs fois, les inégalités salariales, etc., la précarité dans le travail. Elle dit, on est loin d'en avoir vu le bout quand même.
Bah, c'est vrai que ça, c'est important de le dire et de le répéter. Il y a un chiffre aussi, moi, que je voudrais citer, c'est sur les inégalités de richesse entre femmes et hommes. Il y a peut-être une espèce d'idée reçue qui circule comme quoi celle-ci sera en diminution. En fait, c'est pas le cas. Entre 1998 et 2015, ces inégalités de richesse, elles sont passées, donc entre hommes et femmes, de 9 à 16%. Donc en fait, elles sont en train de s'accroître et assez dramatiquement. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est à quel point c'est lié aussi à un certain nombre de réformes de tendance néolibérale. Donc déjà, il faut poser ce constat pour pouvoir envisager leur réduction et le fait de refuser de le voir, c'est aussi le meilleur moyen de les laisser s'aggraver. Après, moi, j'ai quand même un élément d'optimisme, c'est le nombre aussi de jeunes femmes qui se mobilisent sur ce sujet-là, même, je vais dire, qui se politisent par la voie du féminisme. C'est le fait qu'aujourd'hui, on parle des violences sexuelles, on a eu évidemment la vague MeToo, et ça change progressivement. Moi, je le vois aussi, y compris en politique. Ça ne veut pas dire que, évidemment, ces violences n'existent plus, mais ça veut dire qu'elles vont être de moins en moins tolérées, ou en tout cas, on va en parler. Et la libération de la parole, j'ai le sentiment, a quand même de plus en plus lieu. Donc ça, c'est un élément d'optimisme. Et j'espère, c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre, qu'on pourra contribuer à organiser une convergence des luttes. Donc, c'est ce que je dis aussi quand je dis que le féminisme est une question sociale, c'est que la question sociale ne s'oppose pas au féminisme, au contraire. Ça, ce sont des stratégies aussi conservatrices qui visent à maintenir les leviers de pouvoir dans les mêmes mains. Mais aujourd'hui, si vous vous battez pour l'égalité sociale, pour la réduction des inégalités, vous vous battez aussi évidemment pour la réduction des inégalités femmes-hommes et pour le féminisme. Et donc, et c'est la même chose avec l'antiracisme. À mon avis, il y a beaucoup de convergences à organiser. Le fait que de plus en plus de gens s'intéressent à ces sujets et écrivent dessus est quand même un
signe
d'optimisme.
Un signe encourageant. Et voilà. C'est la thèse que vous défendez avec brio dans votre livre. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gabrielle Siriwari. Je rappelle que vous êtes autrice de La République des Hommes aux éditions Bouquin. On en a largement parlé dans cette émission. Vous êtes également porte-parole du PS et adjointe au maire dans le 18e. Et on vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.